Le cinéma horrifique est selon moi un cinéma bien trop sous-estimé. Il souffre de l'image d'un cinéma trop facile et très loin de toute subtilité. Dans ces petites chroniques, nous allons, film par film, tenter de redorer son blason. Salut à tous, chères auditrices et auditeurs, je suis Rémi Lambert, vous écoutez C'est de la locale, et tout de suite, je vais vous parler d'Evil Dead 2. C'est du sirop de maïs.
C'est du sirop de maïs.
C'est bizarre, non ?
C'est du sirop de maïs.
Attention, ça fait peur.
C'est du sirop de maïs. C'est du sirop de maïs. La chronique qui parle d'horreur avec le nom du faux sang au cinéma.
Que cet ennemi n'ait aucun pouvoir sur elle. Je suppose qu'il soit impuissant à nuit.
Ta mère suce des queues en enfer, grâce, excréments sans foi.
C'est du sirop de maïs.
Evil Dead 2 est un film réalisé en 1987 par Sam Raimi, connu pour sa trilogie Spider-Man ainsi que la trilogie Evil Dead. Le film raconte les aventures de Ash Williams, un jeune trou de balle qui travaille au S-Mart et qui part dans un chalet dans les bois avec sa copine Linda pour un week-end sucré-salé. Jusque-là, on pourrait penser que c'est un scénario de film de cul. Cependant, un mystérieux livre relié en peau humaine et écrit de sang les attend au chalet. Mais... alors pourquoi ça fait peur ? Alors certes, être poursuivi par un esprit démoniaque capable d'hanter et de prendre possession des gens ainsi que du mobilier dans un chalet peut paraître si irréel que cela en devient terrifiant, car on est toujours obligé de regarder derrière son épaule, une hache dans les mains pour espérer voir un autre jour. Mais aussi car on oscille entre horreur et comédie, un véritable stop and go, car on ne sait jamais si la scène suivante nous donnera du pain pour des private jokes entre potes ou bien des cauchemars quasi indélébiles. Evil Dead 2 est ce genre de film tellement puéril que ça en devient des classiques, ce qui sortirait de l'imagination d'un adolescent fan d'horreur comme Sam Raimi, très gros fan de George Romero. Du DIY, do it yourself, pur, mais avec une bonne production derrière. Du fait par les fans pour les fans, même ce dernier est embarrassé par ses films, et il dépeint aussi ce qu'il raconte en termes d'horreur dans ses films, dans cet extrait d'interview.
Il y a deux types de peur dans le cinéma d'horreur. Celle dont l'audience imagine quelque chose de plus horrible que ce qu'on leur montre, ou bien tu peux tout leur montrer. Les deux sont vrais, donc j'essaie de mixer en faisant peur avec l'histoire et l'aspect visuel, tout en laissant champ libre à leur créativité.
Les effets visuels, d'ailleurs, sont assurés dans ce film par Greg Nicotero, qu'on connaît maintenant pour ses travaux dans Walking Dead. Et on peut dire qu'il a fait un très bon travail quand on voit les prothèses de Evil Dead ou Henrietta. Ce film se repose sur ce qu'elle a de mieux pour faire peur, et dans ce cas précis, les effets pratiques. La musique de Joseph Loduca, à mi-chemin entre horreur et musique épique, nous avertit à l'avance de l'avenir de Ash, celle d'un héros en devenir qui compte mettre tout en place pour stopper toutes les saloperies démoniaques voulant avaler nos âmes, même à partir au Moyen-Âge s'il le fallait. Tout de suite, nous écoutons le titre Behemoth.
We'll be right back.
Alors effectivement, je sais ce que vous allez me dire. Evil Dead 2 n'est pas forcément le film qui vous fera le plus flipper de tous les temps. C'est pas forcément le film le plus abouti et c'est forcément pas du tout le film le plus réfléchi de tous les temps. Mais au moins, il a cette énergie de vous dire quand même. Avec si peu de budget, on peut arriver à faire ça. Et avec ce genre de film, on se demande si on ne devrait pas appeler quelques potes de collège pour aller tourner dans les bois, histoire de faire un petit film et de le présenter dans un festival indépendant. Et maintenant, nous allons continuer cette chronique C'est du sirop de maïs avec notre interview de Mylène de la chaîne Welcome to the Primetime Bitch, avec laquelle on discute de ces films justement qui nous ont tant marqués.
Je vais me la jouer un peu Scream avec la prochaine question, mais quel est ton film d'horreur préféré ?
Ah, c'est trop difficile. Je mentirais si je disais que c'était pas Scream. Donc, du coup, cette question est très bien tombée. Je pense qu'effectivement, le film que j'aime d'amour, c'est Scream. Je rabats les oreilles de tout le monde avec ce film. Déjà parce que c'est un film que je revois tous les ans, que je revois au moins plusieurs fois par an. Je le trouve très bon, autant pour les néophytes du genre que pour les férus du genre. Je trouve que c'est un film intelligent, j'aime beaucoup Wes Craven. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est un film qui a réussi à relancer le genre du slasher en lançant le néo-slasher. Et d'ailleurs, ça m'attriste beaucoup, parce que souvent, Scream, c'est un film qui est... tout le temps dénigré parce que justement on le rapproche de Scary Movie, on dit que c'est une parodie, j'entends beaucoup de gens dire ah mais Scream c'est drôle, ça ne fait pas peur, c'est un peu superficiel, et moi je suis pas trop d'accord parce que je trouve que Wes Craven et Kevin Williamson avec ce film ils arrivent vraiment à faire quelque chose de très intelligent, à avoir un recul sur tout un genre et sur tout ce qui ne va pas forcément dans le genre du slasher, en fait, dans le slasher de l'âge d'or, quoi. Et ils ont vraiment réussi à réinventer surtout les personnages féminins du slasher. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un film qui est très, très bon.
D'accord, bah merci beaucoup pour cette anecdote. Toi, c'était quoi le premier film d'horreur que tu as vu, Léopold ?
Alors moi, c'était Shrooms, je crois.
Oula.
C'était un film où ils allaient chercher des champignons hallucinogènes dans la forêt et il y en a qui devenaient fous et donc ils s'entretuaient.
Oh la vache. Ouais. Et ton film d'horreur préféré du coup ?
Hérédité d'Ari Aster.
D'accord,
ouais,
tout à fait.
Carrément. Et toi ?
Le tout premier film d'horreur que j'ai vu, je sais pas si on peut considérer ça comme de l'horreur parce que c'est vraiment un nanar plus qu'autre chose, c'est Python.
Ouh.
C'est un gros python de 72 km et de plusieurs tonnes qui vient manger des gens, et je me souviens de la scène où en fait je crois que le python au bout de sa queue avait un truc tranchant, avait décapité des gens, il est planté et tout ça. Ça m'avait bien marqué. Mais sinon mon film d'horreur préféré, c'est de la même trilogie.
C'est Evil Dead, non ?
C'est ça, c'est Evil Dead. Mais pas le troisième. Ah. Le troisième est un peu en dessous par rapport aux autres. Genre, c'est pas forcément de l'horreur selon moi, mais les deux premiers ont cet aspect, plus pour le deuxième, plus comédie. Mais le tout premier a vraiment cet aspect horreur un peu cheap, DIY, que tu fais avec tes potes et que tu retrouves aussi un peu dans le deuxième, avec par exemple l'espèce d'œil là qui explose. On dirait vraiment une balle de ping-pong quand elle vole à l'écran.
En plus, t'as aimé le remake aussi, non ?
J'ai bien aimé le remake de
Mylène, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, du remake, parce que je sais qu'il est très controversé, il y a peu de gens qui l'aient apprécié. Je sais pas si tu l'as vu, le remake de Evil Dead.
Moi, j'ai beaucoup aimé le remake, je l'ai trouvé très très bon. Et j'ai trouvé que. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas aimé parce qu'il n'y avait pas ce côté un peu fou des Evil Dead originaux. Et moi, j'ai trouvé que c'était très bon, c'était une belle relecture des premiers, quoi. Et non, j'ai beaucoup apprécié.
Et pour la petite anecdote, moi c'est le deuxième vrai film d'horreur que j'ai regardé, c'est le remake de Evil Dead avec mes frères. Ils ont trouvé ça sur YouTube et ils ont dit viens on va regarder ça. Moi je devais avoir quoi 12 ans, je me suis dit allez, qu'est-ce qui peut se passer? La scène là, dans la cave avec le cutter là, et
horrible.
La lampe qui part en deux.
Horrible.
Ça, il y a de quoi avoir un sacré trauma. Mais c'est marrant que tu dises que tu parles d'Evil Dead parce que je les ai revus il n'y a pas très très longtemps, parce que le 1 et le 2 ils ont eu une restauration 4K assez récente. Et non, c'est toujours aussi jouissif. C'est des films qui sont très très bons. Voilà, le 1, il y a quelques petits trucs qui me gênent, mais je trouve que malgré le budget et tout, c'est des films qui sont spectaculaires.
Tout à fait, tout à fait.
Et j'ai une petite question pour Mylène. C'est quel est ton sous-genre de l'horreur de prédilection? Parce qu'il y en a plein. Home Invasion, Slasher, Splatter.
Franchement, celui que je maîtrise le mieux et celui que je préfère et celui que je consomme le plus, c'est vraiment le slasher. J'en consomme énormément et c'est vraiment... Et en fait, il y a un côté très, très facile à consommer du slasher. C'est un peu comme quand tu vas en pizzeria et que tu choisis toujours la pizza 4 fromages. Et ben, c'est exactement pareil, quoi. Tu sais ce que tu vas voir et même si des fois, tu peux toujours être surpris par le genre. Hein, c'est pas non plus... Mais voilà, tu sais le canevas, tu sais ce qui va se passer. C'est très ludique, c'est sympa. C'est pas prise de tête, même s'il y a des très bonnes surprises, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le slasher.
À tes yeux, quel est le pire film d'horreur que tu aies vu?
C'est compliqué là. C'est très compliqué. Je suis pas sûre d'avoir. Oh si, j'en ai. J'ai là, bon, ça c'est peut-être pas le pire, mais c'est celui que j'ai en tête. Je dirais Nightmare Island que j'ai vu au cinéma et j'ai rien réussi à récupérer ce pauvre film. J'ai souffert durant toute la séance et c'était pas du tout une belle découverte.
Léo, c'est quoi ton pire film d'horreur?
Moi, mon pire film d'horreur?
Ouais.
Alors, je crois que ce sera Ouija.
Ah ouais?
Je crois que ça doit être un remake ou un truc comme ça. Mais je me suis... Après...
Ouais, il est très mauvais.
Ouais, voilà, ouais, bah, ça doit être... on parle du même alors. Parce que je crois qu'il y en avait plusieurs, mais il y en a un que j'ai regardé qui s'appelle... Ah, il y a aussi Open House, que j'ai regardé sur Netflix, et qui est aussi une sombre bouse. Mais sinon, ouais, Ouija, c'était très, très ennuyant, très ennuyeux, et puis voilà... Ça m'a pas fait peur du tout, et même ça m'a pas stimulé, et puis le dénouement et tout, ouais. Et puis que des screamers avec des effets vraiment tape à l'œil, enfin vraiment très très mauvais.
Moi le pire.
Et par contre le 2 est très bon, enfin il est meilleur le 2, je sais pas si tu l'as vu, c'est Mike Flanagan qui l'a fait, et le 2 est vraiment pas mal.
Ah, j'ai pas eu le courage de me dire que j'allais regarder la suite, je t'avoue.
Bah, c'est l'exception du 2 qui est meilleur que le premier.
Okay. Ah bah, ça... ok, d'accord, bah, je regarderai alors.
Moi, il y en a deux vraiment qui m'ont saoulé. Alors, le premier, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est James Wan, un film de James Wan, c'est Dead Silence.
Ah, moi, j'ai pas
aimé. Quand je l'ai vu, il était nul. Ouais. Tout ce pataquès pour rien. La BO est géniale, la musique est géniale, mais... Quand je me dis que c'est le même mec qui nous a présenté So et qui fait ça, c'est pas possible. Il y a dû avoir une dépression ou un truc comme ça.
C'est vrai que j'ai pas aimé non plus.
Je pourrais pas le démonter, je l'adore, mais après, parce que j'aime beaucoup les films d'horreur avec des poupées ou des pantins maléfiques, c'est un genre que j'aime beaucoup.
Et est-ce que tu as vu le film avec Anthony Hopkins qui s'appelle Magic?
Oui, c'est un film que j'aime énormément. Et en plus, il est ressorti en Blu-ray il n'y a pas très très longtemps, alors qu'il était introuvable en France. Et donc maintenant, je trouve qu'il est très bon. Bah, Anthony Hopkins est très bon de base.
Parce que je t'avoue que je ne l'ai pas vu, mais je vis une vidéo qui en parlait là, juste avant de venir, fait par Anthony Pazzona, je crois, qui en parlait. C'est un YouTuber aussi. Et ouais, ça m'a carrément donné envie de... Il disait que c'était le meilleur film de Pantin... pas maléfique mais un peu creepy qu'il ait jamais vu de sa vie, donc ça m'a donné envie.
Et l'autre, c'est Massacre au Palais du Rire sur Netflix. Ne vous jetez pas sur ce film, il est aussi vide qu'un tupperware dans un placard. Vide. Il n'y a rien.
Non mais je l'ai vu en plus, c'est ça le pire, parce que je regarde énormément de choses. Là dernièrement j'ai regardé Shark of the Corn, j'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout. Voilà, c'est des films qu'on devrait même pas lancer.
Du coup,
c'est de la souffrance.
Mais est-ce que tu as un plaisir coupable?
Eh ben, ça va être décevant pour vous, mais non, parce qu'en fait, j'assume tout ce que je regarde. Donc, du coup, j'ai pas du tout. Voilà, je fais même des vidéos sur les nanars musicaux. Donc, non, en vrai, même les films qui sont pas trop aimés que j'adore. Genre, je suis très fan de Super Mario Bros, qui est considéré comme un nanar ultime. Et non, j'assume tous mes choix et tous mes goûts. Du coup, j'ai pas vraiment de plaisir coupable.
Et est-ce que et donc ta chaîne, elle porte le nom d'une punchline de Freddy Krueger, c'est ça, hein?
Oui.
Et est-ce que du coup, je dois en conclure que c'est pour toi le tueur de slasher le plus emblématique?
Ouais, franchement, je pense celui qui m'a fait le plus peur, c'est Michael Myers. Parce que Freddy, si tu vois toute la saga, à terme, tu t'en as plus peur. Mais je trouve que c'est le plus sympa, celui qui est le plus pop culture, peut-être le plus marquant, celui qui a les morts les plus inventives, le plus fun, et celui qu'on devrait détester mais qu'on adore. Et c'est vrai que cette punchline dans Freddy 3, j'adore. Et donc voilà, c'était un peu une évidence pour choisir le nom de ma chaîne. Et puis Wes Craven.
Est-ce que tu as déjà créé des petits films d'horreur sur un temps personnel ou pas du tout ?
Pas du tout. C'est vraiment quelque chose analyser. Voilà, monter, j'aime beaucoup aussi. Mais réaliser, c'est vraiment pas du tout mon domaine. Et je pense que, après, il ne faut jamais dire jamais, je pense que ça ne le sera pas. C'est vrai que parmi les membres de la sororité, il y a Demoiselle d'Horreur qui réalise des films et qui le fait très très bien. Mais je pense qu'il faut laisser... Moi, je vais laisser ces choses-là à des gens qui maîtrisent bien mieux que moi.
Demoiselle d'Horreur, que j'ai contactée pour également avoir une interview avec elle. Et elle m'a répondu en plus, donc je suis très content. Est-ce que, du coup, il existe un film que tu n'oses toujours pas regarder ?
Alors, il y a beaucoup de classiques que je n'ose pas regarder, mais pas parce qu'ils me font peur ou quoi, c'est parce qu'en fait, j'ai tendance à avoir peur d'être déçue par les grands classiques qui sont très publicités. Et c'est vrai qu'il y a des films comme ça, je vais mettre des années à les voir. Par exemple, Les Dents de la Mer, je l'ai découvert il y a 2-3 ans ou un truc comme ça, parce que j'avais extrêmement peur d'être déçue. Et du coup, il y a comme ça des classiques que j'ai toujours pas vus. Alors là, de tête, j'en ai pas. Mais voilà, Les Dents de la Mer faisait partie de ces films que j'ai mis énormément de temps à regarder parce que on m'avait tellement vendu le film que je me suis dit je peux être que déçu en fait. Et ça n'a pas du tout été le cas.
Et du coup, est-ce que tu as été déçu des Dents de la Mer ?
Non, pas du tout, j'ai adoré. J'ai adoré, je l'ai trouvé incroyablement bien écrit. J'ai adoré la BO, que ben, directement après l'avoir vu au cinéma, j'ai acheté la BO, le jeu, le Blu-ray. Enfin voilà, je me suis parée de la panoplie de la fan des Dents de la Mer. J'ai beaucoup aimé le trio d'acteurs. Je pense que le seul reproche que je ferais aux Dents de la Mer, mais c'est un reproche que je fais à Spielberg en général, c'est que je trouve ces persos féminins assez mal écrits. Et souvent, ces persos féminins sont un peu des faire-valoir. C'est-à-dire que là, dans Les Dents de la Mer, son perso féminin, le seul qu'on voit un peu en avant, est en fait juste là pour s'occuper des enfants le temps que les hommes partent à l'aventure. Et elle est juste là pour attendre au quai, comme ça, un peu en plante verte. Et c'est souvent le cas des personnages de Spielberg féminins. Et ça, c'est le seul petit bémol, mais ça reste un film exceptionnel que je reverrai toujours avec plaisir.
De quelle série attends-tu une suite et quelle suite aurais-tu aimé ne pas voir ?
Je pense que mon âme d'ado, elle aurait voulu voir une suite à Buffy, mais aujourd'hui, je me dis que c'est très bien que Buffy n'ait pas eu suite. En série récente, la suite que j'attends le plus, c'est The OA. Qui a été annulée après 2 saisons et c'est une série que je trouve exceptionnelle qui est vraiment à contre-courant de tout ce qui peut se faire et la saison 2 elle se termine de façon que tu as vraiment envie de savoir la suite et c'est, je pense que c'est la plus grosse frustration de ma vie qu'elle ait été annulée donc là j'ai vraiment envie de qu'elle soit rachetée, qu'une suite se fasse, j'y crois toujours et la série dont j'aurais pas voulu voir de suite peut-être celle qui aurait dû s'arrêter à temps, je dirais que c'est How I Met Your Mother, qui est une série que j'ai beaucoup aimée lors de sa sortie et que j'ai suivie assidûment. Et typiquement, elle fait partie des séries qui n'ont pas su s'arrêter à temps et qui, en fait, ont traîné dans la longueur. Franchement, il y a eu au moins 2 saisons de trop. Et c'était dommage parce que c'était une série qui avait toujours de quoi dire, qui était très inventive et qui s'est essoufflée parce qu'elle n'a pas voulu s'arrêter à temps.
Et en saga de films ?
Ah ben en saga de films, objectivement, je serais obligée de dire que tous les slashers ont trop eu de suites. Mais mon âme de fangirl dira qu'il n'y a jamais assez de slasher. Donc, je ne suis pas très... une suite que je rêve de voir, c'est la suite de Behind the Mask. Behind the Mask, c'est un slasher méta que j'aime beaucoup, qui est sorti en 2010 ou quelque chose comme ça, et en fait qui évolue dans un monde où les tueurs de slasher ont réellement existé. Et donc, on va suivre comme ça en fun footage un tueur de slasher qui va nous expliquer comment il va tuer ses victimes et comment il s'organise. Et je trouve ce film exceptionnel, et c'est l'un des meilleurs films méta récents, et meilleur slasher méta récent. Et c'est vrai qu'en fait, à la fin du film, on nous laisse sur une fin ouverte. Et pendant des années, quand je l'ai découvert, déjà, il y avait une rumeur d'une suite. Et en fait, elle n'a jamais été faite parce qu'ils n'ont jamais trouvé les fonds. Il y a eu des crowdfunding qui ont été faits, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il existe des BD autour de ce film, mais il n'y a pas de suite. Et ça, je rêverais de voir une suite.
C'était notre interview avec Mylène de la chaîne Welcome to the Primetime Bitch. Et c'est déjà la fin de notre deuxième édition de C'est du sirop de maïs. C'est du sirop de maïs.
C'est du sirop de maïs.
C'est bizarre, non?
C'est du sirop de maïs.
Attention, ça fait peur.
C'est du sirop de maïs. C'est du sirop de maïs. La chronique qui parle d'horreur avec le nom du faux sang au cinéma.
Que cet ennemi n'ait aucun pouvoir sur elle. Je suppose qu'il soit impuissant à nuit.
Ta mère suce des queues en enfer, grâce, excréments sans foi.
C'est du sirop.